Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de l'émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Les Américains ont-ils pris leur revanche numérique sur la baie des cochons ?» Le Thibaut que l'on retrouvera en toute fin d'émission pour son complément d'enquête, le son, ce sera « Bâtard ». Quant à notre invitée du jour, Elisabeth Schneider, pour parler des pratiques d'écriture des adolescents. Nous qui sommes âgés, ou qui tout au moins ne sommes plus très jeunes, nous avons des moments de perplexité devant la manière dont vivent les adolescents. Ça concerne beaucoup d'aspects de leur vie, mais un peut-être en particulier, la manière dont ils communiquent et la place de l'écriture là-dedans. Les centaines de textos qu'ils s'échangent, leurs discussions sans fin autour des textos qu'ils écrivent ou reçoivent, la langue employée parfois, qui désespère si souvent les tenants de la rigueur orthographique et syntaxique, mais aussi ce qu'ils écrivent sur Facebook, leur pratique de la messagerie instantanée, etc. Il y a du mystère dans tout ça. Et il est difficile de ne pas regarder ce mystère sans une pointe de condescendance. Et c'est pourtant ce que vous avez réussi à faire, Elisabeth Schneider. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez réussi à observer ces pratiques d'écriture chez les adolescents, à les décrire, à essayer de les comprendre et les interpréter. Alors je précise que vous êtes enseignante de formation,
oui.
Que vous formez des enseignants aujourd'hui,
oui.
Et que vous êtes docteur en géographie et sciences de l'information et de la communication, car l'auteur d'une thèse soutenue, c'est en octobre que vous avez soutenu ?
Oui, octobre 2013.
Il y a quelques mois donc à l'université de Caen, dont le titre était « Économie scripturale des adolescents, enquête sur les usages ». De l'écrit lycéen. Alors un travail dont la lecture, c'est pas toujours le cas pour les travaux de thèse, est passionnante parce que d'abord se fondant sur une étude ethnographique, donc reposant sur l'observation fine des pratiques, sur des discussions approfondies, répétées, une lecture donc qui permet d'affiner certaines intuitions, qui contredit d'autres intuitions et qui va bien souvent, et c'est évidemment pour ça que c'est passionnant comme lecture, à l'encontre d'un discours simpliste qu'on a souvent sur ces pratiques-là. Alors, on ne va pas évidemment s'étendre très longtemps sur le côté méthodologique de votre travail, mais il faut quand même le préciser. Vous avez suivi, étalé sur 2 ans, c'est ça ?
Oui, à peu près de l'automne 2010 jusqu'à l'été 2012. Voilà, avec quelques prélèvements ensuite, courant 2013, mais simplement pour confirmer, pour suivre un petit peu. Mais voilà, c'était effectivement sur 2 ans.
Et vous avez suivi donc des adolescents provenant de 2 groupes
alors,
distincts.
Alors, 2 groupes, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il s'avère que ça constituait à peu près 2 groupes. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Disons que j'ai commencé à rencontrer certains et puis progressivement j'en ai rencontré d'autres et il s'avère que ça constitue à peu près 2 groupes. Ce qui est assez marquant en termes de voilà pour les 2 groupes, c'est parce qu'il y a 2 lycées. Précisément sur lesquels, dans lesquels j'ai suivi des jeunes.
Alors, c'est adolescents, ils sont au lycée ?
Oui,
seconde.
Voilà, le principe, c'était d'observer en seconde, parce que c'était, en tout cas, j'avais l'idée que c'était là qu'émergeaient certaines pratiques ou que se développaient d'autres, parce qu'il y avait plus d'autonomie dans les déplacements, l'entrée au lycée, voilà.
Et plus d'autonomie technologique aussi,
ouais, exactement.
En général.
Voilà, ouais. des achats de téléphones portables plus perfectionnés, ou d'achats de téléphones qui n'étaient pas là avant.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous les observez dans plusieurs contextes, dans leur classe, beaucoup,
oui.
À l'internat pour ceux qui sont à l'internat, oui. Un peu chez eux, vous allez rencontrer des jeunes dans leur chambre, vous les suivez aussi dans le bus.
Oui, voilà, effectivement, c'est même par là que ça a commencé en quelque sorte, c'est parce que j'ai commencé à prendre le bus avec eux, que j'ai identifié des choses et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur la continuité de la journée.
Parce que justement, c'est la question que je me posais, vous le dites, mais très rapidement au début de votre thèse, c'est quoi le... Pourquoi vous intéressez à ça, à cette question de l'écriture chez les adolescents? Ça vient d'où cet intérêt?
Alors ça, c'est la question vraiment du fait d'avoir été enseignante, et en particulier en ZEP, avec des élèves qui avaient des pratiques d'écriture, qui écrivaient beaucoup. et dont au contraire, enfin sur lesquels on avait des discours qui étaient très négatifs.
C'est qui, c'est voilà. Les profs?
Oui, oui, et puis, puis socialement. C'est-à-dire, ils n'écrivent plus, on n'arrive pas à les faire écrire au-delà de trois lignes. Voilà. Et effectivement, l'arrivée du téléphone portable, voilà, c'était la catastrophe assurée. On ne pouvait du coup plus rien faire et l'orthographe était perdue.
Donc dès le départ, il y a quand même l'idée d'interroger en profondeur un discours commun et de voir s'il correspond ou pas à une réalité des pratiques. C'est ça, il y a comme ça dès le départ.
Oui, parce que aussi, quelque chose qui me frappait, c'est que, par exemple, des jeunes que je connaissais, je savais que les adultes autour d'eux voyaient les mêmes choses que moi et pourtant, ils étaient aussi pris dans des discours très négatifs. Comme si on pouvait... on acceptait la contradiction, c'est-à-dire de porter un jugement qui était en contradiction avec la réalité de la pratique qu'on avait sous les yeux.
C'est ça, parce que la chose la plus frappante, on va évidemment entrer dans le détail, mais ce qui est peut-être le plus frappant dans votre travail, c'est à quel point ces jeunes écrivent.
Ah oui.
Ils passent leur temps à écrire.
Oui, ouais, ouais.
Alors une multiplicité d'écritures, parce que, et qui va dans un... Alors c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que qui va du papier au numérique, du numérique au papier, dans un aller-retour permanent.
Oui. Ouais, ouais, c'est-à-dire que il y a une vraie continuité de l'écriture tout au fil, enfin au fil de la journée, au fil des activités, en changeant d'outils, en changeant de lieu, voilà.
À tel point qu'on se demande quand est-ce qu'ils cessent d'écrire de manière certaine. Non, mais je me suis posé la question, je me dis c'est où les trous là-dedans?
Quand ils dorment.
Et encore.
Oui. Oui, oui, le voilà, dès que le téléphone vibre sous l'oreiller, faut répondre.
C'est certain, vous avez une fille, je crois, qui explique que son téléphone est toujours allumé, donc elle se réveille la nuit pour répondre.
Voilà, et elle sort de la douche, même si ça vibre et qu'elle est sous la douche, elle va effectivement sortir de la douche pour pouvoir répondre. Ça, je pense que ça s'est développé, parce que quand j'ai commencé en 2010, c'était le début des forfaits SMS illimités, tandis que là, c'est beaucoup plus répandu. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi des couvre-feux, parce que c'est comme ça que les jeunes l'appelaient, des couvre-feux instaurés par les parents, beaucoup plus fréquents. C'est-à-dire, on surveille, on s'aperçoit qu'à 23h30, on y est encore. Donc, on va éteindre les téléphones, couper le Wi-Fi dans la maison.
Ah bon, il y a des parents qui coupent le Wi-Fi dans la maison?
Bah oui.
Ah oui, c'est intéressant.
Oui, parce que c'est un moyen quand même aussi de limiter, du coup, sur les smartphones. Là, on sort de l'écriture, mais la question des séries qu'on regarde à 3h du matin.
Et alors, autre chose, alors évidemment, parce que ça n'est pas dans votre thèse, mais qu'on se pose aussi comme question tout le temps, c'est que ces jeunes-là, ils écrivent tout le temps et ils ne se parlent presque plus au téléphone, par exemple.
Oui.
Et ça, c'est très frappant aussi.
En même temps, je me demande si ça ne va pas bouger. Mais c'est vrai que, à cause du prix des forfaits. Ah. Disons que je pense que les forfaits, les SMS illimités ont fait que vraiment, il y a eu un développement d'usage de l'écriture parce que ça ne coûtait plus rien par rapport aux heures de communication vocale. Et tandis que là, il me semble qu'il y a une baisse des forfaits avec des heures possibles en vocale. Et je pense qu'il y a des usages que l'on garde quand même, où on veut avoir la voix.
D'accord. Mais est-ce que ceux que vous avez interrogés ont un discours sur le fait qu'ils préfèrent s'écrire plutôt que se parler, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas...
Si, oui. C'est-à-dire qu'il y a des usages où on va préférer, par exemple, quand on a besoin de réfléchir aux mots qu'on va utiliser, aux mots qu'on va employer. La communication amoureuse leur convient plus en SMS.
C'est intéressant, c'est qu'on garde, on préfère garder pour, par exemple, la communication amoureuse, le côté mise à distance, et donc mise à distance temporelle aussi, de l'écriture.
Bah oui, le choix du mot, les choix des mots. Et tandis que sur d'autres types, par exemple, ce que je voyais dans le bus, vont utiliser le téléphone pour parler, pour dire, voilà, j'arrive, j'ai raté mon bus, tu viens me chercher à tel arrêt, pour parler aux parents.
Aux parents, ouais. C'est que la communication vocale, elle est plutôt réservée aux parents.
Ou alors, on va revenir à des communications qui avaient été identifiées il y a quelques années, où on est tout seul dans sa chambre avec son téléphone portable, et si on a... Voilà, on peut profiter d'une communication un peu illimitée le soir. On va téléphoner, on va être avec
et ça,
la
c'est
voix.
Drôle parce qu'on a l'impression qu'on a une sorte d'inversion. C'est-à-dire que la voix, c'est on s'installe pour parler dans une sorte de dispositif plus solitaire. Et là, on va parler. Mmh. Alors que dans le quotidien, dans le geste, dans la petite parole, pas simplement parce que c'est la parole amoureuse, mais disons, elle va être prise en charge par l'écriture. Ça, c'est intéressant. C'est une sorte, c'est une différence par rapport à nous, par exemple, notre génération, où on avait aussi des grandes conversations au téléphone, mais où l'écriture était réservée à la lettre, donc dans un
et, plus long. Et en même temps, ça dépend, parce que là, il y en a qui sont effectivement tranquilles dans leur chambre et qui vont gérer des vraies conversations par SMS longues, mais en même temps qui leur permet d'être multitâche. Si on a le téléphone allumé et qu'on est en train de parler, c'est difficile de visionner une série en même temps, c'est difficile de jouer en même temps sur son smartphone ou sur une console. Tandis que si on est avec des SMS, voilà, on envoie le SMS, mais on peut en même temps faire autre chose.
Pour continuer sur cette... parce qu'évidemment, on vous écoute et on vous lit avec des tentations permanentes d'aller-retour temporel en se disant mais comment c'était nous à notre époque, avant, etc. Bon. Il faut rassurer ceux qui ont l'impression que l'écriture sur papier disparaît. C'est-à-dire qu'il y a aussi continue à y avoir une grosse pratique d'écriture du papier. Oui. Et pas uniquement scolaire. Bon, il y a l'écriture scolaire, évidemment, mais aussi en dehors.
Oui, une écriture. Alors, il y a une écriture donc scolaire qui est toujours très prescrite. Mmh. En même temps, il y a une écriture scolaire qui n'est pas prescrite, qui est moins visible. Hein, c'est-à-dire qu'ils écrivent des choses pour arriver à s'organiser ou pour vivre la vie scolaire. Eux-mêmes, ils vont faire des fiches, ils vont faire des listes, ils vont se communiquer par écrit des choses autour des cours. Donc, par exemple, des lycéens qui ont un TPE à faire, ils vont s'envoyer des prises de notes, ils vont même s'envoyer ça par SMS, hein, c'est, pourquoi pas. Donc, il va y avoir ces écrits-là. Il y en a qui sont numériques, mais il y en a qui sont beaucoup papier. Et puis, il y a des écrits qui sont effectivement non scolaires, qui vont être du côté de l'écriture de soi.
Donc des journaux intimes.
Oui, bah moi j'en ai pas vu et chaque fois que j'ai interrogé les ados, ils avaient plutôt une attitude de recul vis-à-vis des journaux intimes. Ce qu'on me disait, c'est je l'ai fait, mais c'est fini quoi.
C'est plutôt oui, parce pour que le c'est collège. Des grands ados, c'est voilà. Vrai, c'est plutôt d'accord.
C'était plutôt collège ou mais d'écrire des sentences, d'écrire des sortes de maximes dans des agendas, ça se fait toujours.
Ah oui, l'agenda reste un lieu d'inscription. Oui.
Mais plus on avance dans le lycée, moins ça l'est. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai pu voir, c'est que c'est une pratique qui relève davantage des collégiens.
Vous disiez, on continue à écrire sur papier pour soi, ce que vous disiez, le terme que vous avez employé exactement.
Oui, c'est... une écriture de soi.
Ah, de soi, d'accord. Ouais. Donc si ce n'est pas un journal intime, c'est quoi l'écriture de soi?
Bah, disons que ce n'est pas un journal intime dans le sens où on ne recherche pas forcément une inscription dans la durée. C'est-à-dire que c'est ponctuel. On va écrire quelque chose parce que des garçons, par exemple, là, m'ont expliqué ça. Ils ont envie de quelque chose qui s'est mal passé, voilà. Ils vont jeter quelques mots sur. Enfin, moi, je le dis comme ça, jeter quelques mots. Mais ils vont prendre une feuille, ils vont écrire, mais la feuille va finir à la poubelle. Ah. Ils vont pas le conserver.
Alors, c'est quoi le statut de ça? Comment il l'explique?
Est-ce que c'est une manière d'extérioriser, de décharger une quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel et qui a besoin d'être qui a besoin d'être extériorisé de manière à ne plus être en surcharge.
D'accord. Et pourquoi ils expliquent le fait que ce soit la feuille de papier qui reçoive ça et pas, je sais pas, un document Word sur un ordinateur ou...
C'est possible que ce soit quand même plus accessible tout de suite, au moment où ils en ont besoin. C'est-à-dire, quand on est dans sa chambre, quand on est à l'internat ou la chambre au domicile, c'est vrai qu'un bout de papier est peut-être plus facile à trouver que d'allumer l'ordinateur, de le...
Et je me posais une question que vous abordez très très rapidement à un moment, mais qui est la part, Elisabeth Schneider, de la graphie. C'est-à-dire que, moi, je me fonde sur mes propres pratiques adolescentes, qui était l'importance qu'on accordait à son écriture en tant que graphie, et qui pouvait passer aussi par le changement de la couleur de l'encre, par le fait qu'on observait chez le voisin une belle façon de faire les F et que pendant un mois on s'entraînait à faire les F comme ce voisin. Enfin, c'est aussi un moment où l'écriture change beaucoup de l'adolescence, jusqu'au moment où on établit à peu près une écriture définitive justement au sortir du lycée. Et est-ce que vous les avez interrogés, ces adolescents, justement, ou est-ce qu'ils ont encore un souci de cette graphie, c'est du travail de leur propre graphie, de leur propre écriture en tant que graphique?
Oui, les éléments que j'ai là-dessus. Alors d'abord, il y a les filles, par exemple, qui faisaient des jeux de rôle, qui faisaient des cahiers de.
Les cahiers de jeux de rôle. Ils écrivaient des propres jeux de rôle.
Les scénarios de quête, et puis les carnets qu'on utilise à ce moment-là, pendant le jeu, sont là très, très, on va même dire calligraphiés, parce qu'il y a un souci de la graphie, d'avoir quelque chose qui est assez proche de l'enluminure. On va choisir des encres, on va même faire aller en librairie, enfin en papeterie, acheter exprès des encres spécifiques, des stylos spécifiques pour faire ça. Vous avez aussi cette préoccupation-là, même si elle n'est pas sur la graphie au sens du geste manuscrit, mais les jeunes, par exemple, vont choisir une certaine police pour identifier des expéditeurs de SMS. C'est-à-dire, quand ça arrive de telle personne, je vais choisir la police ou je vais choisir la couleur ou je vais...
Ah oui, c'est-à-dire que ça sert... Ah oui, là on est, du coup, on passe sur l'écran, mais où, effectivement, la typographie
cette question
peut
aussi
servir... Ah oui, cette question, elle agit dans l'écran. Ah, c'est rigolo, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que je vous pose la question sur le côté graphie papier et vous me répondez numérique.
Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est ce qui est très intéressant dans ces pratiques-là, c'est qu'elles sont vraiment... Elles procèdent par contamination. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui sont installées, qui perdurent sur papier et qui vont contaminer les usages sur numérique. Et en même temps, ils vont développer des usages sur numérique qui vont en retour contaminer des pratiques papier. Dans l'autre sens, du numérique vers le papier, la manière de structurer les écrits. Là, je ne suis pas sur la graphie, mais par exemple, je me suis rendu compte que des jeunes, quand ils ont à faire des écrits, par exemple par rapport à des TPE ou le CJS, qui est un enseignement éducation civique, juridique et sociale en seconde, ils vont prendre des notes et ils vont structurer sous forme d'arborescence.
Ça c'est passionnant.
Et cette structure sous forme d'arborescence me semble relever davantage d'une contamination du numérique vers le papier.
Complètement. Ouais. On a fait des arborescences. On faisait des ensembles, mais c'était pas du tout la même chose.
Voilà. De la même façon, la pratique du tagage, l'idée du mot-clé qu'on affecte à des contenus.
Ils font du tagage par écrit et papier.
Oui.
Oh, c'est extra, ça.
Oui. Et alors, celui-là, il faut vraiment que j'aille regarder de plus près parce que c'était pas dans les jeunes précisément que j'ai suivis, mais des enfants qui, en fait, avaient des pratiques de jeux vidéo sur papier. C'est-à-dire qu'ils reproduisent... ils sont par exemple chez des amis, avec des enfants d'amis. Ils n'ont pas accès à l'ordinateur, mais ils ont des cahiers, ils ont du papier. Et sur une feuille de papier A4, ils se dessinent un écran, ils se dessinent leur petit personnage et ils le jouent avec des crayons de couleur. Ils font le déplacement des personnages, etc., sur une feuille de papier.
C'est extraordinaire.
Donc on a une pratique de jeu vidéo sur papier. Et c'est un cahier, en tout cas ceux que j'ai observés, le cahier est conservé, il est emmené chez l'un, chez l'autre, et il ne faut pas oublier d'amener le cahier, parce qu'au moins comme ça, ils peuvent jouer. Ils se font des petits graphiques pour avoir les points de vie identifiés au fur et à mesure des personnages. Donc évidemment, la page A4, à la fin du jeu, est totalement illisible.
Mais c'est magnifique en même temps.
Mais en même temps, oui.
C'est fou. Oui. Bon, alors, il y a quand même quelque chose qui frappe aussi dans votre livre, c'est la prépondérance incroyable, du SMS.
Oui.
Encore une fois, c'est un outil. Juste, il faut rappeler historiquement, technologiquement, ce que c'est que le SMS. C'est quasiment un accident technologique, le SMS. Au départ, c'est quand même quelque chose qui est créé pour que les opérateurs puissent communiquer avec leurs usagers. Et puis, il se trouve que ça change. On s'aperçoit qu'on peut s'envoyer des messages, puis c'est entré dans tous les téléphones, etc. Et puis, c'est plus simplement entre usagers et opérateurs, mais entre usagers. Et ça devient ce que c'est devenu, c'est-à-dire un outil conséquent pour nous, qui nous sommes appropriés progressivement, et aussi pour ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à écrire des SMS.
Oui. En nombre, c'est impressionnant.
Jusqu'à combien vous avez pu observer dans un petit groupe ?
En tout cas, dans la déclaration, certains me disaient être à 300 SMS par jour quand ils sont sur des journées de cours.
C'est ça. Tasha, une de ces que vous interrogez, qui a l'air très très forte, elle dit qu'elle a pu en échanger jusqu'à 25 pendant une heure de cours.
Oui. Et je l'ai vu faire, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense, au fur et à mesure de l'enquête, je le voyais se diffuser. Effectivement, ça va très vite.
Qu'est-ce qui se raconte dans ces SMS, Elisabeth Schneider ?
Alors, en fait, ça dépend des moments. C'est vraiment une question de situation. C'est-à-dire que selon les moments, ça va leur servir, par exemple, à s'organiser. Donc, pour pouvoir coordonner des activités. Donc, ils sont en cours, ils vont s'envoyer des SMS entre copains pour dire tu m'attends à la sortie du cours. Ou bien, je me débrouille pour me faire virer. Et on se retrouve en bas dans le hall.
Alors, juste une petite parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que ça brise complètement l'idée du hors-cours, en cours, de la sanctuarisation du cours. Ça, c'est fini.
Voilà. Oui, c'est une façon d'être présent avec quelqu'un d'autre à l'extérieur du cours. C'est-à-dire, l'enseignant institue un temps, un moment où on travaille, où on fait des choses ensemble. Et sur cet espace commun, eux, ils organisent une rupture pour être avec quelqu'un d'autre en même temps.
Alors ça, c'est premier usage, donc l'organisation, et ensuite, vous avez observé.
Ensuite, ça va être d'assurer une continuité de l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont de leur action. Ils sont en train de discuter avec quelqu'un, ils sont obligés de se quitter pour prendre un bus, pour aller ailleurs, partir en cours, et ils vont s'envoyer des SMS pour continuer la conversation qu'ils ont commencée.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire ne pas accepter que leur discussion soit interrompue par le changement de lieu, par...
Mais ça veut dire qu'ils vivent dans des espaces-temps complètement superposés. C'est-à-dire qu'ils vivent tout le temps dans différents espaces.
Oui. C'est-à-dire, effectivement, ils en chassent des espaces, en quelque sorte. En tout cas, ils ont un espace privé dans la situation scolaire. Il y a un jeu perpétuel. Mais en même temps, parce qu'ils essayent, je crois, de piloter autant qu'ils le peuvent leur propre vie. Mmh. C'est-à-dire, on m'impose, la contrainte scolaire par exemple, m'impose de couper mes activités. Moi, je trouve un moyen de faire perdurer l'activité qui est vraiment intéressante pour moi.
Discuter. Et vous observez, ça, c'est, en fait, on a l'impression d'un monde de discussions permanentes. Et parfois, des discussions même qui n'ont pas beaucoup de sens, ça, vous observez une pratique, pour le coup, moi, je ne connaissais pas du tout, qui est ce qu'on pourrait appeler une fonction fatigue du SMS, c'est-à-dire juste établir une communication, mais qui n'a pas grand sens, avec des mots parfois complètement absurdes qui ne veulent rien dire.
Oui, alors ça, c'est double, hein, c'est-à-dire que parfois, c'est, d'un point de vue linguistique, ça n'a pas d'intérêt. Donc, t'es où, je suis là, j'arrive, voilà. Mais qui, pour eux, a une valeur de balisage, c'est-à-dire que ça leur permet quand même progressivement de rester en lien et de pouvoir se retrouver, de savoir exactement. Voilà, c'est une fonction, à mon avis, de coordination dans le temps et dans l'espace. Et puis, l'autre usage de ces choses qu'on pourrait dire fatigue, ou en tout cas de ces mots qui n'ont pas de sens, hein, je cite par exemple « onche », ou des mots qui sont juste des jeux sonores, enfin des jeux sur les syllabes, c'est une manière de solliciter l'autre, mais en fait de déclencher l'activité sociale. C'est-à-dire, j'ai envie de faire un truc avec toi. Voilà, ça sera un jeu sur les mots. Mais comme on peut se réunir pour jouer aux cartes, après tout.
Donc là, on joue sur les mots, par l'écran.
On joue sur les mots par l'écran.
Autre chose très intéressante dans le SMS, c'est ce que vous appelez syndrome, phénomène Cyrano. C'est-à-dire que ça, c'est aussi quelque chose, alors, pour le coup, qui est très étrange. C'est le fait qu'on peut faire écrire son SMS par quelqu'un d'autre, dans des circonstances qui sont plus complexes pour soi. C'est-à-dire que vous observez deux cas principaux, une jeune fille qui a, par exemple, qui s'est très engueulée avec sa mère, et puis qui ne sait pas très bien comment réagir, est tellement énervée que c'est sa copine qui va, à ce moment-là, écrire pour elle. Ou alors, évidemment, le cas amoureux. C'est-à-dire c'est l'autre, le copain, en plus, ça se fait entre garçons aussi, qui, je ne sais pas, peut-être parce qu'il maîtrise mieux, ou d'ailleurs, pour quelle raison, on ne sait pas très bien, va écrire le texto amoureux de son copain. Bon, Cyrano, parce qu'évidemment, c'est Cyrano qui porte le discours amoureux de Christian, qui, le pauvre, est beau, mais ne sait pas très bien quoi dire. Ouais. Et donc, vous l'observez de manière assez récurrente. C'est étonnant. Comment vous l'interprétez, ça?
Disons que le téléphone portable, là, c'est un outil pour lequel il faut aussi réfléchir aux mots qu'on va utiliser. Il faut aussi... il y a une situation qui est chargée émotionnellement, qui peut avoir des implications. Est-ce que je vais séduire la fille? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Comment je peux rétablir la situation avec ma mère? Et on se trouve en situation d'incapacité. Et là, du coup, l'autre, c'est un petit peu notre ressource. On peut s'appuyer sur lui pour arriver à franchir cet obstacle, cette charge émotionnelle qu'on n'arrive pas à vivre. Et c'est vrai qu'effectivement, du coup, il va y avoir une négociation sur les mots, parce qu'en plus, ils discutent entre eux pour voir ce qui est acceptable. C'est-à-dire, si je lui parle comme ça à la fille, est-ce que ça te va?
On teste.
On teste. Hein. Donc, par exemple, ceux que j'avais observés à écrire un SMS amoureux, il y a une première proposition qui était... moi, j'étais assise derrière, donc j'ai vu effectivement les mots utilisés, qui étaient quand même très lyriques.
C'est bien.
Assez exagéré, où il essayait, celui qui écrivait le SMS, essayait d'endosser, d'imaginer ce que l'autre pouvait écrire. Mais du coup, on avait des choses très... un petit peu exagéré. Et donc, il passe le téléphone et l'autre valide ou ne valide pas. Dit, non, ça ne va pas lui plaire. Voilà. Et donc, progressivement, comme ça, il négocie.
Alors, ça veut dire que d'un côté, ce qui est très beau, c'est que d'un côté, il y a négociation pour l'écriture du SMS. Et de l'autre côté, à la réception, il y a aussi négociation exégétique. Il y a discussion exégétique. Et ça, c'est des choses qu'on voit très couramment dans le métro, par exemple. On voit des groupes de jeunes comme ça, où on se montre l'écran et tout le monde discute pour essayer de comprendre vraiment. Donc, du coup, le texto devient enjeu dans sa fabrication, donc enjeu de linguistique, vraiment parfois très précis, à la ponctuation près. Et de l'autre côté, à réception, il devient aussi motif de discussion, d'exégèse, etc.
Voilà, exactement. Parce que du coup, il y a un certain nombre d'hypothèses sur quel est l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on essaye de nous faire passer comme message. Et après, ça donnera lieu à une réponse seule ou une réponse collective, en disant, attention, si elle t'écrit comme ça, c'est qu'elle n'est pas seule, c'est que quelqu'un lui a...
Parce que du coup, ils décodent ça aussi.
Exactement, c'est-à-dire qu'ils savent, ils savent qu'à certains moments, le SMS qu'ils reçoivent n'a pas dû être écrit... on l'a pas écrit seul, c'est quelque chose qui a dû être fait avec une copine ou par exemple effectivement un jeune me racontait récemment que il était quand il reçoit des SMS à certaines heures, il sait que sa copine n'est pas seule, c'est forcément un SMS écrit à plusieurs, du coup il va être beaucoup plus précautionneux.
Ah ouais, oh, c'est passionnant. Bon, on va continuer notre discussion, mais tout de suite, Thibaut, qu'on retrouve cette semaine, parce qu'il s'est plongé dans son ordinateur, pour répondre à la question « Les Américains ont-ils pris leur revanche numérique sur la baie des cochons ?»
Les Américains ont-ils pris leur revanche numérique sur la baie des cochons ? Eh bien non, encore raté. Mais ça a failli réussir, en tout cas, l'affaire est exemplaire. C'est l'histoire d'un service de messagerie mis en place à Cuba depuis l'Espagne via une banque aux Caïmans, une sorte de sous-Twitter au nom d'oiseau, Zunzuneo Colibri, soutenu financièrement par l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, une sorte d'agence humanitaire officiellement souvent épinglée pour ses activités officieuses, plutôt guerrières ou info-guerrières en fait. Et en Amérique latine notamment. C'est Associated Press qui révèle l'affaire jeudi dernier sur le site du Washington Post. Washington Post, propriété, je le rappelle, de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, par ailleurs en contrat avec le Pentagone. Mais je n'en rajoute pas, l'histoire du sous-Twitter cubain suffit amplement à nourrir l'imagination. L'histoire de Zunzuneo s'étale entre 2009 et 2012. Une personne chez Cubacell, Cuba Telecom en gros, va transmettre les numéros de centaines de milliers de Cubains à un compatriote expatrié en Espagne qui va lui-même les transmettre à l'USAID gratuitement, paraît-il. Pourquoi ? Je ne sais. Mais l'USAID se saisit de l'aubaine pour mettre en place, en secret, une sorte de réseau social à base de SMS. Ainsi naît le projet ZZ, futur Zunzuneo. Lié à un site web sur lequel les Cubains, et ils seront jusqu'à 40 000 à le faire, peuvent s'inscrire afin de recevoir les messages de la plateforme. Messages tout à fait anodins au départ, sur le sport, la météo, mais dans l'idée de s'en servir plus tard, une fois le service massivement utilisé, comme un levier pour déstabiliser le régime cubain, organiser des manifs, ou comme le dit poliment l'USAID, renégocier l'équilibre du pouvoir entre l'État et la société. Et ce, bien sûr, tout en récupérant des données personnelles. En s'inscrivant à Zunzuneo, le Cubain recevait donc les messages de la plateforme, mais aussi ceux des personnes auxquelles il pouvait s'abonner. AP révèle aussi en passant que Jack Dorsey, le cofondateur du Twitter authentique, a même été contacté pour apporter ses lumières au projet. Il a refusé de commenter les faits. Cuba et les télécoms. L'île a beau disposer depuis 2011 d'un câble de fibre optique qui la relie au Venezuela, l'accès à l'Internet y reste très restreint. Il faut se rendre dans les hôtels ou dans l'une des 130 agences ETEXA et les tarifs sont très élevés, prohibitifs même. Par contre, il y a 1 700 000 utilisateurs de mobiles, plus que de lignes fixes. Zunzuneo avait donc tout pour réussir. Et de fait, tout s'est bien passé pendant longtemps, tout juste quelques tentatives de traçage et de blocage des messages par la Havane, mais rien de bien méchant. Alors pourquoi cette tentative d'instaurer la démocratie a-t-elle échoué ? Eh bien, parce qu'un jour, l'USAID en a eu marre de payer à Cubacell des 1000 et des 100 pour faire circuler ses messages et s'est dit que ce serait vachement plus efficace si le service était repris et développé par des gens qui ignoraient tout de la jeunesse du projet. Du coup, ils ont commencé à en parler autour d'eux, les autorités cubaines ont commencé à s'y intéresser de plus près, les messages passaient de moins en moins. Bref, on ne sait pas très bien pourquoi, mais le projet a fini par capoter, une sorte de baie des cochons numérique. Damned, le cheval de Troie était presque parfait.
J'étais et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis. Mais t'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme? Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel? Mécréant ou terroriste? T'es veuche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu? Rien du tout, ou tout tout de suite? Du tout au tout, indécis. Hein, tu changes d'avis, imbécile.
Merci Thibaut, on se retrouve dans quelques instants pour votre complément d'enquête, mais tout de suite on écoute de la musique de jeunes, Stromae, qui était sur la playlist d'Énergie cette semaine, c'est comme ça que vous l'avez trouvé. Son morceau Bâtard, un des titres de son album Racine Carrée, qui était sorti en 2013.
monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir, et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille. Pour être bien vu partout, hein.
Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques où nous sommes ce soir avec Elisabeth Schneider qui a soutenu il y a quelques mois une thèse sur les pratiques d'écriture chez les adolescents. Alors Elisabeth Schneider, jusqu'à maintenant, on a quand même réussi à parler de ça pendant pratiquement une demi-heure sans parler de Facebook.
Ah oui.
Alors c'est énorme la pratique de Facebook dans les groupes que vous avez observés.
Oui, 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 et en même temps avec des engagements variables dans le temps. C'est-à-dire des jeunes qui refusent d'y être, enfin qui refusent de démarrer, refusent de créer un compte.
Sous quel prétexte ?
Sous prétexte qu'ils ont autre chose à faire, qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans cette espèce de ce qu'ils anticipent comme étant un cercle vicieux. Et puis d'autres qui se désengagent.
Ah oui.
Et donc, par exemple, là, j'ai consulté il n'y a pas très longtemps les comptes Facebook de ceux que j'ai suivis. Plusieurs s'en sont désengagés, c'est-à-dire Ils consultent très rarement, voilà. Donc quand ils ont des notifications pour les anniversaires, ils mettent un petit mot, mais ils ont une pratique qui se désengage. Et donc c'est assez variable.
Et alors, qu'est-ce qu'ils s'écrivent sur Facebook, Elisabeth Schneider ?
Alors, ils s'écrivent des choses qui sont de l'ordre du quotidien, c'est-à-dire d'essayer de donner un petit peu comme avec les SMS du sens au quotidien. Donc on va publier, on va numériser et partager des choses que l'on a faites sur papier au cours de la journée. Donc par exemple, des bandes dessinées, des petits mots qu'on a écrits pendant les cours, on les numérise, on les partage.
Où l'on retrouve donc la continuité dont vous parliez
depuis
le début.
Voilà, le papier numérique. On va aussi chercher à communiquer les uns avec les autres et s'approcher les uns des autres, c'est-à-dire essayer d'expérimenter en fait toutes ces conventions sociales que l'on a sur le hors-ligne. On les expérimente aussi par l'écriture avec Facebook.
C'est-à-dire, je comprends pas bien.
C'est-à-dire, par exemple, de la même manière que quand on ne fait pas partie d'un groupe hors-ligne, il y a un certain jeu social. Comment est-ce qu'on fait pour s'approcher d'un groupe duquel on ne fait pas partie ? De la même manière, sur Facebook, on va avoir des techniques, par exemple, de fêter l'anniversaire de quelqu'un, mettre un petit mot en disant « voilà, je suis la copine d'un tel ». Donc, demander à être ami, mais on ne fait pas que demander à être ami, on ajoute un petit mot. Et puis, comme ça, progressivement, on fait partie des gens qui, du coup, vont être mentionnés, auxquels on va parler, auxquels on va écrire. Et progressivement, voilà, on se socialise à des pratiques, à des jeux sociaux que l'on a sur le hors-ligne.
Ce qui est frappant aussi, Elisabeth Schneider, dans ce que vous observez, c'est qu'il y a des styles d'intervention très différents, enfin des styles du coup d'écriture très différents sur Facebook, alors qui passent évidemment, ça c'est pas votre registre, même si vous le mentionnez, par la présentation de soi, c'est-à-dire les photos qu'on a en image, mais ça on en a beaucoup parlé ici, mais qui passent aussi par la manière d'écrire. Et moi j'ai retrouvé des choses qui m'ont paru extrêmement frappantes. C'est une personne que vous avez, une de ces jeunes filles qui s'appelle Tasha, qui est très présente sur Facebook et qui a, dans la manière dont elle écrit, me faisait penser énormément à des filles que j'avais croisées quand j'étais lycéen, mais simplement c'était l'agenda qui avait cette utilité-là, c'est-à-dire où il y avait des sortes de phrases un peu lyriques, un peu poético, on ne savait pas très bien quoi, parlant beaucoup évidemment d'amour, des hommes, de la vie, de la mort, etc. Et là, tout à coup, ça passe sur Facebook, mais alors du coup, ça enclenche complètement autre chose, parce que ça enclenche des conversations, des likes, des commentaires, c'est très étrange ça.
Donc effectivement, c'est très intéressant parce que du coup, ces écrits, qui dans les agendas, une fois qu'ils étaient fermés, il n'y avait pas d'autres activités sociales qui pouvaient avoir lieu autour de ça, à part de montrer l'agenda et de le faire circuler un petit peu en classe. Mais sinon, là, du coup, d'être partagé sur Facebook, il y a une activité qui se met en place. On commente, on va poser une question parce qu'on voit le sous-entendu amoureux. Donc, il y a une conversation qui se met en place. En même temps, il y a ceux qui vont se contenter de cliquer sur « j'aime ». Et puis, il y a ceux avec lesquels on va mettre en place une interaction. Et on s'aperçoit que ce qui est en jeu, ce n'est pas le contenu même de l'écrit qui a été déposé, mais c'est autre chose. C'est la relation sociale en elle-même, c'est l'individu. Et alors, effectivement, l'ensemble des éléments qui sont sur Facebook, les photos, etc., participent de ça.
Oui.
Mais c'est quelque chose de très riche, finalement, qui se met
en place. Est-ce que c'est important pour eux ? Est-ce qu'ils y accordent beaucoup d'importance ? Ou est-ce que, parce que là, je fais référence à... Alors, en même temps, ce que je dis, c'est un peu contradictoire, mais je fais référence aux travaux d'Anna Boyd, l'ethnographe américaine, à laquelle vous référez assez souvent, parce qu'elle a fait un travail passionnant chez les jeunes Américains et l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes Américains, et qui compare ça à ce qu'elle appelle le hangout. C'est-à-dire le hangout, c'était glander ensemble, quoi. Bon, ce qui se faisait avant, et elle explique que ce que faisait avant dans les malls, voilà, on se retrouvait, les jeunes se retrouvaient et discutaient comme ça de tout et de rien, mais maintenant ils le font sur les réseaux sociaux. Alors à la fois c'est pas important et à la fois c'est très important.
Oui.
Et est-ce que vous observez la même chose dans la pratique de Facebook chez
les adolescents ? Oui, c'est-à-dire que par exemple les jeunes eux-mêmes le disent, ils savent dire, mais franchement, bon là j'ai passé une heure, on s'est rien dit. Je te kiffe, t'es la plus belle, voilà. Ils savent bien que il y a quelque chose qui est insatisfaisant, ou en tout cas où le temps passe très vite et on se dit bon, à quoi bon tout ça. Et en même temps, ils continuent d'y consacrer du temps. Donc ça veut dire qu'il y a bien un sens spécifique pour eux. Et je crois qu'il y a cette idée que, même si c'est un peu ça peut paraître exagéré de le dire comme ça, c'est que ça aide à grandir. Ça aide à se frotter aux autres, ça aide à entrer en relation avec les autres. On teste des manières d'écrire, on teste des manières de se parler, des manières de se côtoyer. Donc effectivement, on traîne ensemble en ligne sur un espace. Mais c'est comme ça qu'on apprend la vie en société aussi.
Et c'est peut-être pour ça aussi, Elisabeth Schneider, qu'à un moment, on quitte Facebook. Parce que quand on a compris... comment situer, quel était son positionnement, comment faire. Oui. On n'a peut-être plus besoin de ça.
Voilà. Et puis il y a une, je pense, dans la temporalité de l'adolescence, il y a aussi des moments où des activités hors ligne vont prendre le pas.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est un peu comme les SMS. Mmh. C'est-à-dire, j'ai des lycéens qui, au départ, quand ils commencent les SMS, me disent « faut pas m'enlever mon téléphone parce que je suis plus rien sans mon téléphone si on m'arrête les SMS ». Et qui, finalement, un an plus tard, sont dans des usages beaucoup plus modérés. Parce qu'ils ont organisé un équilibre avec des activités hors ligne.
Mmh. Et alors, évidemment, une question qui se pose, notamment sur Facebook, et alors dans les captures d'écran que vous avez faites, c'est très frappant, qui est la question du statut public-privé. C'est-à-dire qu'on est dans des... Je ne sais pas, je pense encore une fois à Tasha, parce que c'est peut-être l'exemple le plus frappant, mais dans des sortes d'échanges, alors effectivement, qui n'ont pas grand sens avec sa copine, bon, qui sont des sortes de déclarations d'amour, alors d'amour et d'amitié en même temps, et tout ça est exposé à la vue de n'importe quelle personne qui est amie avec l'une ou l'autre, et on se dit bon, c'est énorme, enfin même parfois il y a des déclarations de certains, des mises en scène de soi, des aveux, etc. Alors quel regard ils ont sur le statut publico-privé de ces conversations scripturales, de cette écriture?
Ouais, là effectivement, ils sont quand même très clairs, même s'ils ne vont pas toujours utiliser ce terme-là, mais c'est pas parce que c'est accessible que c'est public.
C'est-à-dire, c'est visible. C'est ce que dit Dana Boyd aussi, vous avez, voilà. Ça c'est très intéressant, vous confirmiez ce que dit Dana Boyd.
C'est très récurrent, ce n'est pas parce que tu peux le voir, que tu as le droit de porter un jugement.
Ouais, ça c'est vraiment
important. Et on le voit bien d'ailleurs, parce que si certains se mêlent de la conversation, ils se font rembarrer très vite.
Oui.
Ou alors ils vont progressivement adopter quelque chose qui va être de l'ordre de « j'ai vu, mais je ne participe pas ». C'est-à-dire je clique sur « j'aime », donc ça veut dire « j'ai vu,
mais je respecte,
mais je ne vais pas prendre la liberté de participer aux commentaires ». Voilà. Et je vous laisse toutes les deux discuter l'une avec l'autre et on ne s'en mêle pas.
Voilà. Ah ouais, ça c'est fou ça.
Et donc il y a une espèce de relation exclusive qui se met en place sur le temps d'une communication, et puis le lendemain, la communication exclusive, elle va être avec une autre.
Ah oui, c'est ça, ça, c'est que pas... ça peut circuler
voilà,
de cette manière-là.
Voilà, ça circule. C'est-à-dire que moi je trouvais qu'il y a quelque chose de très important quand on réfléchit à ces usages de Facebook, c'est la question de l'échelle. C'est-à-dire que il faut pas réfléchir, les usages ne sont pas à l'échelle du réseau d'amis. Voilà, 300 amis, ça veut rien dire, et ils savent très bien que ça veut rien dire. Ils n'ont, enfin ceux avec qui j'ai pu discuter, personne ne dit j'ai 300 amis, j'ai véritablement 300 amis. C'est-à-dire que selon ce que je publie, selon ce que j'écris, je pense à quelques-uns. Et c'est à eux que je destine cet écrit-là. Donc, a priori, il n'y a que eux qui ont le droit de me répondre.
C'est ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le sentiment, en les lisant et en lisant ce que vous rapportez de leurs propos, qu'ils manifestent une assez grande réflexivité sur leurs usages. À la fois parce que la langue est perpétuellement questionnée. On discute de la langue, alors on discute de la langue sur Facebook, dans les textos. Et on est aussi assez conscient de ces pratiques. J'ai l'impression, en tout cas, quand vous leur posez des questions, que vous les amenez à réfléchir, ils sont assez clairs, comme vous le dites vous-même.
Oui, alors ils en discutent, Ils en discutent parfois en ligne, mais parfois hors ligne, c'est-à-dire se faire des formes de, voilà, de régulation entre eux, de dire, voilà, tu sais, ta façon de parler, la manière dont tu lui as répondu, il ne faut pas t'étonner qu'on te rembarre. Donc, ils vont progressivement, comme ça, apprendre aussi des façons d'écrire, des façons de se parler.
Et est-ce que, Elisabeth Schneider, vous diriez, quand vous les voyez faire, vous reprendriez à votre compte des expressions comme, par exemple, celle de digital natif, donc une vieille expression maintenant qui date du début des années 2000, qui avait été lancée par un Américain du nom de Mark Prensky, pour déterminer, par exemple, pour définir cette génération de gens nés avec les technologies et qui avaient grandi avec les technologies, bon, dans l'idée qu'il y avait une différence entre eux et puis les digital migrants, c'est-à-dire nous, qui sommes rentrés là-dedans et avec, qui ont eu du mal. Bon. Ou alors, pour prendre une autre catégorie, mais qui désigne finalement avec d'autres mots un peu la même chose, c'est celle de Michel Serres, quand il parle de la petite poussette, où, dans laquelle la petite poussette, c'est celle qui a des pouces où nous on avait des index, je sais pas, qui postule aussi une forme de rupture anthropologique. Oui. Alors est-ce que vous avez eu l'impression, vous, en les observant, qu'il y avait une rupture anthropologique?
Non, parce que effectivement, si derrière ces termes de digital natives et de petites poussettes, on a l'idée de enfin, c'est ce que dit par exemple Pascal Lardelien, il dit que on avait affaire à des mutants numériques. Ouais. Voilà, non, véritablement, il n'y a pas de, enfin, pour moi, il n'y a pas de mutation anthropologique. On est sur des processus longs. Sur des développements d'usage qui parfois peuvent être assez en rupture, c'est-à-dire qu'il y a un usage qui émerge et qui va prendre une place très importante, mais cet usage-là, c'est pas de la création spontanée, c'est un usage qui s'inscrit dans une continuité d'autres usages, parce qu'il a du sens à un moment donné, il va pouvoir se développer. Et à mon avis aussi, justement, quand on parle de digital natives et de petite poussette, un des risques, c'est de refuser la question de la réflexivité. C'est-à-dire comme si...
Ah, comme si ça devenait du réflexe, de l'instinctif, du naturel.
Ils sont nés avec un espèce de gène supplémentaire ou au contraire, un gène absent, celui du papier. Comme s'ils ne pouvaient pas avoir ce recul critique sur ce qui est en train de se développer, sur ces usages, sur ces pratiques qu'ils développent. Il y a des moments, voilà, ils vont décider de reculer. Il y a des moments, ils vont faire tout en se disant c'est assez ridicule ce que je fais, probablement que quand je serai adulte, j'arrêterai. Voilà.
Et comme beaucoup d'autres choses.
Voilà. Donc je citerai l'exemple là, d'un jeune que j'avais suivi qui a pris l'habitude de tourner des petites vidéos qu'il appelle des points culture et qu'il dépose sur Facebook, qu'il partage, etc. Et ça donne lieu à pas mal de conversations, de discussions. Et dans ces points culture, il avait par exemple un point Facebook. Avec une analyse de Facebook, il avait à ce moment-là tout juste 17 ans. C'est une vidéo qu'il a déposée en 2011, fin 2011, avec un recul, mais qui est très, très, très pertinent.
Et alors, juste avant que Thibaut intervienne, une dernière petite question. Et la part de la fiction dans tout ça? Vous parlez assez peu des écritures fictionnelles. C'est des écritures pour soi ou de soi, mais pas beaucoup de fiction. Il y a quand même une place dans toutes ces écritures pour la fiction?
Oui, c'est-à-dire que la fiction, alors elle est présente dans les jeux de rôle, dans ces usages-là.
Oui, des jeux de rôle qui sont des jeux de rôle écrits, parce qu'on peut jouer sur Internet à des jeux de rôle où on écrit.
Voilà, donc là, effectivement, on dépose des scénarios complets, on dépose des fiches personnages, on les élabore, on commence à rédiger des quêtes, etc. Et ensuite, on va pouvoir les jouer en grandeur nature. On a des écritures fictionnelles qui sont aussi sur papier. Je raconte le cas d'Alice, qui a un ensemble de carnets où elle raconte, elle a des fils narratifs, un fil narratif par carnet, et elle va poursuivre ça pendant des années. Jusqu'à là, dernièrement, où elle avait envie d'en faire quelque chose de construit sous forme de roman. Donc, on a des écritures fictionnelles. Et là encore, le papier et le numérique s'articulent pour ce type d'écriture.
Tout de suite, Thibaut Henton pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. C'est pas que ce soit très important.
Thibaut.
On a parlé de Facebook. Il paraît qu'aujourd'hui, les jeunes préfèrent les applications anonymes et éphémères, c'est-à-dire des applications grâce auxquelles on envoie des messages qui disparaissent au bout de quelques secondes, etc. C'est un phénomène que vous avez observé ?
Non, ça n'existait pas à ce moment-là. Enfin, ça commençait. Et donc, effectivement, ils le faisaient, mais c'était...
Futur terrain de recherche, alors, peut-être.
Oui.
Juste, je peux poser une question, Thibaut ?
Non.
Je la pose quand même. C'est moi le chef. Juste, la trace, sur la question de la trace, c'est important, ça aussi, c'est qu'on garde des SMS. Il y a des choses qu'on garde dans la trace.
Hein.
C'est important, on stocke.
Oui. Oui, oui, on stocke. Et c'est pour ça que le mot trace, en quelque sorte, m'ennuie, parce qu'une trace, c'est quelque chose qui est fossilisé. Tandis que là, ils stockent et ils vont refaire autre chose avec.
Ils relisent parfois, ils relisent leur vieux SMS, ça c'est intéressant. Excusez-moi Thibault.
Je vous en prie. Qui dit langage SMS dit une langue un peu torturée. Alors on fait souvent le reproche aux jeunes générations d'écrire mal. Est-ce que vous pouvez battre en brèche cette croyance ?
Oui. Alors déjà, il y a une enquête récente, effectivement, par des chercheurs du CNRS qui a bien montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'orthographe, l'évolution des compétences orthographiques et l'usage du SMS. Donc ça, je pense que ça devrait commencer à être clair. Et il y a en plus une préoccupation des ados à écrire en toutes lettres et à écrire correctement. C'est-à-dire, effectivement, quand on a des compétences orthographiques peu expertes, on va avoir des difficultés à écrire des SMS aussi. C'est pas, en tout cas, il n'y a pas de corrélation.
C'est-à-dire qu'il distingue bien entre l'écriture et la langue, quoi. Enfin, la pratique d'écriture et la langue.
Oui, et la correction de la langue. Mmh. Oui, oui, oui. Et ils sont capables d'adapter, effectivement, s'ils ont un travail écrit scolaire à faire.
Alors moi, je m'interroge beaucoup sur la façon dont ça s'est passé, vos entretiens. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez assise derrière vos sujets.
Parfois.
Ça, c'était pas pour discuter avec eux, c'était pour les observer, ça, Thibault.
Non, mais qu'ils vous laissaient tout voir. Ils vous laissaient tout voir. Il y avait des négociations permanentes. Comment ça se passait ?
Disons que c'est assez... J'ai peut-être eu de la chance, mais je pense aussi qu'ils avaient envie de montrer, parce qu'ils en ont un peu ras-le-bol de ce qu'on dit d'eux. Donc, effectivement, ils m'ont accepté comme amie sur Facebook et ils m'ont laissé liberté de regarder, de prendre, etc.
C'est des textos amoureux, y compris.
Voilà, certains me les ont transférés, ils me les ont montrés, ils me les ont commentés en les montrant. Donc voilà, je pense que j'étais plutôt gâtée.
Pas de texto cochon, excuse-moi, Thibault. Pas de texto cochon. En tout cas, on vous a pas montré cela. Donc c'est amoureux, c'est beaucoup plus lyrique que suggestif dans ce que vous avez vu.
Oui, enfin non, si j'en ai vu qui était beaucoup moins délicat.
Ah bon, d'accord.
Oui.
Thibault, c'est à vous.
Et on vous a jamais pris de haut. On se disait vos sujets, les gens que vous avez interrogés, on se disait jamais oh de toute façon la vieille elle comprend rien ce qu'on fait, etc. Excusez-moi.
Ils ont eu la politesse de pas le faire.
De pas dire la vieille par exemple.
Moi je me souviens d'un prof de philo qui trouvait vraiment aberrant le fait qu'on passe notre temps à toujours nous demander où est-ce qu'on est, quand est-ce qu'on arrive, etc. Il avait inventé le néologisme de théologie. Que je voulais vous soumettre, voilà.
Ben pourquoi pas, mais je crois qu'un des enjeux essentiels de la vie, c'est de savoir où on est et où on va.
Juste une dernière question, vous avez encore une question, Thibault ?
Non. Oui, des exemples de maximes ou de sentences là, dont vous parliez tout à l'heure, de ces collégiens qui écrivent. Il n'y en a pas une qui vous est restée en tête ?
Celle qui me reste en tête, elle n'est pas du tout liée à Tacha. C'est parce que c'était très... Comme quoi, c'est quelque chose qui n'est pas si récent que ça. C'est, l'amour, c'est comme une cigarette. Voilà, etc. Donc c'est aussi ça, je veux dire, c'est quelque chose de très ancien finalement, de prendre des morceaux de chansons et de se les approprier, de les réénoncer pour soi-même, pour sa propre vie.
Et simplement là, on les met sur Facebook, on les partage, et comme vous disiez tout à l'heure, voilà. C'est commenté, etc.
Ouais, donc du coup, on a de l'activité sociale autour de ça, et on grandit avec ça aussi.
Merci beaucoup, Elisabeth Schneider, c'était passionnant. Voilà. Est-ce que vous acceptez qu'on mette votre thèse en ligne ou ça vous embête ?
Oui, non, pas de souci.
Je précise que Vanessa Schneider n'est pas du tout vieille, hein, qu'elle fait très jeune.
Mais ça s'appelle Elisabeth Schneider. Elisabeth Schneider, c'est autre chose, c'est la police du monde. Merci Thibault. Donc, vos références, Elisabeth Schneider, sont sur la page de Place de la Toile. Une page où Thibault pourra réécouter cette émission qu'il n'a même toujours pas entendue. Voilà, pendant 3 ans. Et puis, elle sera podcastable pendant 1 an. La semaine prochaine, alors, nous nous conformerons à notre tradition qui consiste à recevoir le nouveau titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France. Alors, le nouveau titulaire prononcera son discours inaugural jeudi prochain et nous le recevrons donc dans la foulée. Il s'appelle Nicolas Ayache et il travaille sur l'imagerie médicale et la modélisation du patient, notamment pour la chirurgie. Ce sera donc samedi prochain 18h10 dans Place de la Toile, Thibaut Henton qui était très en forme aujourd'hui, Xavier Delaporte, stagiaire Marie Mougin, à la technique c'était Élise Le, réalisation Vanessa Nadjar et pas Elisabeth Nadjar.
Ah, voilà.
Il est 19h sur France Culture, dans quelques instants vous retrouverez Elisabeth Tchungi pour son magazine de musique Sur Écoute. Bonne soirée, bonne semaine.